vois qu'il y a plusieurs personnes qui toussent. Ça paraît que la Toussaint vient de vous arriver. Moi aussi, je tousse. Hein, si vous n'entendez pas bien, je ne vais pas pouvoir parler plus fort, mais vous pouvez vous avancer et vous allez entendre mieux. J'espère que ça va aller bien. Alors, nous allons ouvrir la parole de Dieu ce matin. On va parler de Gédéon. Est-ce que qui connaissait Gédéon? Et que vous êtes vieux. Alors, c'est dans le livre des Juges. Ah oui, il faudra allumer les lumières. Je vois tout le Bible. Je vois la Bible, mais pas ce qui est écrit dessus. Voilà. Que la lumière soit. Voyez-vous le pouvoir, hein? Ah! Merci beaucoup. Je vais mettre encore le temps ici, que je puisse le voir bien. On est dans le livre des Juges, au 6e chapitre. J'aimerais vous citer un verset qui fait penser à l'histoire de Jésus. Là, je parle pas assez fort, de tout ça va venir. Le livre des Juges, au 6e chapitre, et je vais vous lire un verset juste avant, vous restez dans cet endroit-là, et vous allez voir le rapport qu'il va y avoir durant la prédication, et je vais vous donner l'endroit où ce verset est écrit, à la fin de la prédication, pour que vous puissiez voir le contexte. Il boit au torrent pendant la marche, c'est pourquoi il relève la tête. Alors, nous sommes dans le livre des Juges, on a déjà prié pour la réunion, et je crois que Dieu va répondre à cette prière-là. Je vais raconter une histoire pour que les jeunes gens, j'aurais aimé ça que vous soyez tous passés en avant, mais je vais essayer de voir chacun, ils sont dispersés partout, pour encourager les jeunes gens à la vie victorieuse. Alors, on est dans le livre de Gédéon, le premier verset, Gédéon chapitre 6, « Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et l'Éternel les livra entre les mains de Madian pendant 7 ans. » J'ai enlevé mon manteau, j'ai dit mon manteau. Bon! Alors, le premier verset, et ça nous montre que Dieu, on est dans l'Ancien Testament, et le Nouveau Testament, c'est le même Dieu, il y a une relation quand même très différente. Vous savez pourquoi dans le Nouveau Testament, le temps de l'Église, la relation avec Dieu est très différente? Parce qu'en plus d'être des croyants comme Abraham, Isaac et Jacob, comme Gédéon, comme les autres personnages, nous sommes nés dans la cité céleste. Nous sommes nés d'en haut. Nous sommes, comme on le chantait, des étrangers sur la terre. Eux, ils étaient des gens sur la terre, pas nous. Alors, notre relation est différente de par le statut que Dieu nous a donné. Pas parce que Dieu est changé, pas parce que l'homme est différent, mais qu'en naissant de nouveau, c'est que Dieu nous a déjà mis à mort, nous, avec Christ. Et là, on est maintenant des nouvelles créations ou des nouvelles créatures. C'est pour ça que je vous ai dit hier, vous avez dans vous l'amour de Dieu. Vous avez dans vous les choses que Dieu dit. Vivez cette vie nouvelle que Dieu vous a donnée. Là, je pensais encore d'ajouter, excusez-moi, c'était peut-être la manière de me connecter avec vous plutôt que de vous connecter avec moi. Alors ici, on voit que Dieu, lorsque son peuple est désobéissant, ils avaient été idolâtres, ils avaient été rebelles à la parole de Dieu, eh bien Dieu, il discipline ses enfants. Et Dieu nous châtie encore aujourd'hui, nous qui sommes nés de nouveau, si on s'éloigne de lui, si on n'oublie pas sa voix, si on ne se conforme pas aux vérités que Dieu nous a montrées, on est responsable de le faire. Alors Dieu va nous reprendre, il va nous corriger parce qu'il nous aime. Alors il va le faire comme un père, il va le faire pour ses enfants. Ils étaient sous un jugement de Dieu pour 7 années. Les 7 années approchaient, la fin des 7 années approchait. Le verset deuxième et troisième. La main de Madian fut puissante contre Israël. Pour échapper à Madian, les enfants d'Israël se retiraient dans les ravins des montagnes, dans les cavernes et sur les rochers fortifiés. Nous, ici, on est dans un château. Imaginez le contraire. On continue. Verset 3. Quand Israël avait semé, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient. Une armée de trois forces militaires s'étaient jointes ensemble. Quand ils avaient sonné, Madian montait avec Amalek et les fils de l'Orient et ils marchaient contre lui. Le verset quatrième, ils campaient en face de lui, détruisaient les productions du pays jusque vers Gaza et ne laissaient à Israël ni vivre, ni brebis, ni bœuf, ni âne. Car ils montaient avec leurs troupeaux et leurs tentes, ils arrivaient comme une multitude de sauterelles. Ils étaient innombrables, eux et leurs chameaux, et ils venaient dans le pays pour le ravager. C'est la situation dans laquelle nous trouvons l'histoire de Gédéon. Maintenant, on commence, on va toucher le message. On a vu l'arrière-plan. Vous savez ceux qui font des tableaux, avant de faire ressortir les sujets principaux du tableau, ils doivent d'abord faire le fond. Ça, c'est un gros contraste avec les éléments qui sont mis en évidence. Verset 6e. Lorsqu'Israël fut très malheureux, un de nos frères était cultivateur, imaginez, vous auriez été très malheureux. Si à chaque fois que votre semence est arrivée, que vos troupeaux sont là et tout ça, qui ont mis bas, que l'ennemi vient puis vous enlève tout. Ça recommence à zéro. 7 ans de temps, à chaque année. Très malheureux. Lorsqu'Israël fut très malheureux à cause de Madian, et les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel. Dieu dans nos vies, encore aujourd'hui, nous donne des situations où la seule ressource que nous avons, c'est de crier à Dieu, de prier à Dieu, de le supplier, toutes sortes de prières, de supplications. Il ne faut pas oublier les actions de grâce aussi pour nous. Mais ils ont crié, et Dieu, quand il permet les difficultés, même lorsqu'on marche fidèlement, ici c'est parce qu'ils étaient désobéissants, mais même lorsque vous êtes fidèles, Dieu le dit, si vous choisissez d'être fidèles, et je vous demande de choisir d'être fidèles, Dieu ne dit pas, choisis de ne pas être fidèle, tu vas avoir la vie plus facile. Non, non, non. Parce que le diable est beaucoup plus cruel que Dieu. Dieu, s'il châtie, c'est pour nous construire, nous donner du caractère, nous former. Le diable, c'est pour nous massacrer, nous détruire et détruire l'image de Dieu. Même dans notre vie humaine. Les gens qui vous péchez, même leur vie humaine sont détruits. On les voit, leur figure, c'est ravagé, des jeunes gens. Ah! Robert, concentre-toi, c'est un message adressé à tout Christ. Israël était malheureux et ils crièrent à l'Éternel. Lorsque les enfants d'Israël crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, au moment même où ils ont crié, verset 8e, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Et il leur dit, « Ainsi par l'Éternel, le Dieu d'Israël, je vous ai fait monter d'Égypte, je vous ai fait sortir de la maison de servitude, je vous ai délivré de la main des Égyptiens et de la main de tous ceux qui vous opprimaient. Je les ai chassés devant vous et je vous ai donné leur pays. » Quand vous priez, dès que vous priez, l'Éternel répond à votre prière. Moi, j'ai toujours enseigné, parce qu'il y a des livres sur la prière, que Dieu répond oui ou non ou attends. Moi, il y a un verset dans ma Bible qui me dit qu'à chaque fois que je prie, le Amen de ma prière, c'est Jésus qui le déclare, et c'est moi qui le prononce. Le Amen par lui est prononcé par nous. Alors la réponse à nos prières, c'est toujours oui. Dieu va le faire ce qu'on lui demande. Maintenant, quand on prie des fois, on a décidé de dire à Dieu, parce que on est tellement intelligent, comment il devrait s'y prendre. Alors si ça ne développe pas comme on pense, on dit, mais il ne répond pas, parce que la manière qu'on voudrait qu'il fasse, ce n'est pas sa manière. Mais je vous garantis que Dieu répond à la prière. C'est en fait comment Jésus, qui a toujours dit la vérité, pourrait vous dire que si vous demandez quelque chose, selon la volonté de Dieu, il vous écoute, et quelle que soit la chose que vous demandez, vous la possédez. Il faut faire attention qu'on fasse dire à la prière, mais les grands savants sont capables on est capable d'être comme ceux qui condensent les Écritures à leur avantage, par leur tradition. Alors moi, j'aime mieux dire ça, et même si j'ai jamais vu les prières comme j'ai pensé que Dieu répondrait, je sais que Dieu a répondu à toutes mes prières. Et à l'enlèvement des livres, vous allez être embarrassé si vous n'avez pas cru ça. Parce que vous allez dire, pourquoi tu dis que c'était comme ça? Regarde ce que j'avais fait, là. Et mais là, arrêtez, je ne suis pas supposé vous parler de ça. C'est pas sur la prière que je vais parler. Sur l'amour. Parce que dès qu'il a prié, Dieu a envoyé quoi? Qui? Il a envoyé quoi? Ou qui?
Un prophète.
Et savez-vous ce que le prophète a prophétisé? Est-ce qu'il a fait une prophétie que personne ne connaissait? Une nouvelle révélation que seul lui lui a donnée? Il a cité la parole écrite. Le prophète a parlé de ce que Moïse avait mis par écrit. Il enseignait la parole de Dieu. Et le prophète dans l'Église, c'est son travail d'enseigner la parole de Dieu parce qu'elle est complète. Et lui, ce prophète-là, il enseignait la parole de Dieu de son temps qui était complétée. À chaque fois que vous avez prié, mettez-vous à lire votre Bible pour que Dieu vous parle. Si vous n'entendez pas les réponses, c'est parce que vous priez et vous n'écoutez même pas ce que Dieu vous dit. C'est pour ça, des fois, je demande à des jeunes hommes de lire. Parce que je veux que quand je parle, faire participer les gens. Si vous voulez prier juste à sens unique, je me souviens de demeurer catholique parce qu'on priait devant une statue de Jésus ou de Marie, on parlait, mais on n'avait jamais de réponse parce qu'ils n'entendent pas, ils ne voient pas, ils ne savent rien, ils n'ont pas de bouche qui parle. Donc Dieu, il le fait à son image. Quand il lit ma Bible, il me parle. Moi, le meilleur moment de ma journée, c'est quand je lis ma Bible. Parce que Dieu me parle. Je n'ai même pas besoin de rendez-vous spécial. M. Vixby était là à Toulouse quand j'ai prêché à des jeunes gens. Moi, je m'assois dans mon salon ici dans l'hôtel de la chambre des deux belles chaises qui a, je pense, Ikea. Je pense. Pas Ikea. Ça serait des chaises de voiture. Ça serait confortable aussi. Et j'ai pris un gros oreiller du lit, là, et je les ai mis sur mes genoux, et j'ai mis mes pieds sur la table, et là, ma Bible qui est pesante sur l'oreiller pour être le plus détendu possible, le moins de distraction. Je fais encore ça! J'ai 67 ans et je fais encore ça! Et Dieu me parle! Et que c'est bon! J'ai pas eu le temps de réaliser tout mon message parce que j'avais un rendez-vous avec Dieu, puis il a pris le rendez-vous au complet. Fait que j'ai dit à Dieu, « Bon, tu vas m'aider pour prêcher. » Alors, quand on prie, dès que les enfants d'Israël ont crié à Dieu au verset 6, lorsque les enfants, verset 7, crièrent à l'Éternel au sujet de Madian, au moment même, l'Éternel envoya un prophète aux enfants d'Israël. Quand Daniel a prié pour comprendre les choses difficiles, puis a prié à Dieu, il attendait, les choses n'arrivaient pas, il attendait, il changeait de couleur, il est devenu carotté. La meilleure, c'est écrit comme si il n'est pas juste vert ou blanc, il n'est pas carreau, comme votre chemise. Puis quand l'ange est arrivé, savez-vous ce que l'ange a dit à Daniel? Dès que ta prière a été prononcé, Dieu m'a envoyé pour t'apporter la réponse. Et le délai, c'est parce qu'en route, j'ai dû faire la guerre aux armées des rois méchants qui vous tiennent en captivité et puis qui voulaient m'empêcher de passer. Et puis, l'archange Michael, qui est l'archange d'Israël, est venu m'aider, parce que c'était Gabriel, il est venu m'aider pour que je puisse passer au travers. Et maintenant, j'arrive. Mais la réponse était déjà en marche. Et des fois, quand on voit la réponse, c'est parce que ça fait déjà, depuis qu'on a prié, qu'elle était en marche. Je veux que vous sachiez ça, pour que ça vous excite de prier, et que vous preniez le temps de prier, et prier pour des choses importantes aussi, et pour tous les petits détails. Dieu aime tout. Qu'est-ce que Dieu nous dit quand on rentre dans notre chambre et on prie? Quand on lui demande quelque chose, lui dit, rentre dans ta chambre, ferme ta porte, et prie ton Père, qui est dans le lieu secret. Ça, c'est ta chambre. C'est ton salon, si c'est là que tu as le plus de tranquillité. Et pourquoi Dieu nous dit d'aller là? Ben, parce qu'il veut qu'on entende. Pas parce qu'il veut pas être dérangé. Il veut pas que nous, on soit déconcentrés. Et Dieu nous dit que lorsqu'on est dans notre chambre et on a prié, eh bien, tu demandes à ton Père qui voit dans le secret, et ton Père qui voit dans le secret te le rendra, parce que ton Père sait d'avance ce que tu vas lui demander. Avant qu'on le lui demande, il nous dit, viens prier, parce que moi, je veux te le donner ce que tu as besoin, mais je ne peux pas te le donner tant que tu ne vas pas me le demander. Mais Père, c'est d'avance que nous avons besoin. Mais quand je viens, puis je lui dis, j'ai besoin de nouveaux running, de nouvelles, je ne sais pas comment vous dites ça, les noms ici, j'allais choisir de nouveaux souliers, parce qu'il y a déjà des trous en dessous, là, puis ça bouille quand on marche dans l'eau. Mais dis, je sais d'avance que tu vas me demander, je sais que tu en as besoin. Je suis un bon père. Je sais que toi, tu grimpes partout, puis je suis plus vite que ma petite sœur qui est si tranquille. Oui, le père est comme ça. Mais là, il faut que je vienne. Gédéon, Robert. Gédéon. Et le prophète a dit exactement la vérité à Gédéon. Ainsi parle l'Éternel. Et le prophète a cité la parole de Dieu écrite. Je ne peux pas expliquer juste ça parce que dans le cas des autres messages, on peut toucher. Chaque message introduit vraiment. C'est Dieu qui nous met à la chaîne d'une chose, même de changer l'ordre pour Gédéon parce que c'était nécessaire. Alors, il leur a expliqué que Dieu les avait toujours délivrés de tous les ennemis, les avait toujours protégés, et il avait toujours chassé ceux qui étaient contre eux. Et puis, je vous ai dit, je suis l'Éternel au verset 10, votre Dieu. Vous ne craindrez point les dieux des Amoréens dans le pays desquels vous habitez, mais vous n'avez pas écouté ma voix. Maintenant, ça, c'est le grave problème de chaque croyant de tous les âges, depuis Adam et Ève, et même du temps de l'Église, malgré qu'on soit des nouvelles créatures. On entend, mais on n'écoute pas. Parce qu'écouter, ça veut dire on obéit. On a une expression au Québec. Écoute ton père quand ta mère te parle. Je sais que vous connaissez votre Bible. Je ne suis pas certain que vous avez écouté. C'est ça la différence. On espère qu'on va écouter aujourd'hui. Savez-vous combien de personnes, quand Dieu a parlé au peuple ici, qui criait à Dieu, combien de personnes ont écouté? Vous allez découvrir. On s'en vient ici. Verset 11, mais là on entre dans le vif du sujet. Je vais demander à un jeune homme de lever la main pour lire. Je vais demander à un jeune homme de lever la main pour lire. Oui! Alors le verset 11, s'il vous plaît.
Il vint l'ange de l'Éternel et s'assit sous le térébenthe d'Ophra, qui appartenait à Joas de la famille d'Abiézer. Gédéon, son fils, battait du froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian.
Merci beaucoup. Puis vient Jésus. L'ange de l'Éternel, nous savons, c'est Jésus. Ah, puis vint Jésus-Christ, l'ange de l'Éternel. Gédéon avait pris pour protéger la récolte, il avait pris un grand pressoir pour presser les raisins, ça, mais immense, dont plusieurs personnes pouvaient pénétrer. Quand il était là-dedans, il était caché. Il amenait il battait le froment, il amenait le froment là-dedans pour être à l'abri des ennemis qui ne le voient pas, qui entendent le moins possible les coups, pour être protégé parce qu'il voulait garder le manger pour pour voir pour les enfants de Dieu, pour son peuple, pour sa famille. Il vient d'une famille pauvre. Alors Jésus, dans le verset 11e, il vient, l'ange de l'Éternel, il s'assoit sous le térébenthe d'Ophra qui appartenait à Joab de la famille d'Abiézer. Ça, c'est le père de Gédéon. Gédéon, son fils, battait le froment au pressoir pour le mettre à l'abri de Madian. Et là, Gédéon, il battait, il levait la tête, il regardait partout pour voir si les ennemis n'arriveraient pas. Et Gédéon n'a jamais vu Jésus-Christ qui le regardait, parce qu'il était invisible. Et mes chers jeunes gens, depuis que vous êtes sauvés, là où vous êtes, à l'université, dans votre chambre d'université, si vous logez sur le campus, et chacun de vous, Dieu, depuis que vous êtes sauvés, il vient, à chaque fois qu'on prie à lui, il vient s'asseoir pour nous regarder vivre notre vie chrétienne, et il est invisible. L'histoire après sa résurrection, il était visible avec les deux disciples qui marchaient. Et puis, pendant le repas, lorsqu'ils ont rompu le pain, il est devenu invisible. Mais avec Gédéon, il est invisible. Gédéon ne le savait pas. Et Jésus venu voir Gédéon comment il vivait, parce que Gédéon était le seul qui a écouté la voix du prophète de tout Israël. J'espère que les jeunes gens vous lisez vos Bibles. Quand il a entendu le prophète citer Moïse, il a pris à cœur. Pourquoi? Parce que lorsque Jésus va lui parler, il lui dit, mais pourquoi qu'on n'est pas délivré comme? Il a cité tous les versets que le prophète lui a présentés. Il connaissait la parole de Dieu. Écrit! Il cherchait pas des révélations spéciales. Et si on sait regarder dans notre vie, on va voir l'invisible. Puis on va comprendre comment Dieu travaille. Alors, Jésus l'a regardé longtemps et longtemps. Et après ça, cher frère, veux-tu me lire le verset 12e.
L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit.
Voilà. Continue.
L'Éternel est avec toi, vaillant héros.
Merci. Jésus-Christ est devenu visible. Puis là, il l'a vu. Puis tu l'as regardé, il n'y avait personne. Il n'y avait personne sous le terrain de mon père. Parce qu'il s'avance toujours par là. Il s'enligne sur le terrain pour trouver où est-ce qu'on est. J'étais là. Je l'ai vu. Tu croyais ma Bible. Tu croyais ma parole écrite. Alors il vient nous parler. Et là, il nous parle. Et ça devient clair, les choses qu'il nous dit. Parce qu'on voit celui qui est invisible. Eux, ils ne pouvaient pas comme nous, ils n'ont pas une vie nouvelle. Alors ils apprenaient qu'ils le voient physiquement. C'était la même chose avec le prophète Élie. Élisée, son serviteur. Même chose. Les ennemis sont venus parce que toujours les ennemis. Et puis le Seigneur, on a peur, on est pris. Il a entouré la ville, tout ça. Il dit à son serviteur, il ne faut pas vous inquiéter. Ceux qui sont avec nous sont plus nombreux que ceux qui sont contre nous. Et là, il lui a prié que Dieu ouvre les yeux de son serviteur. Savez-vous pourquoi il a prié? Pour que son serviteur puisse voir toute l'armée qui entourait les deux, le prophète avec son serviteur. Et Élisée n'a même pas demandé, lui, à voir l'armée. Il ne voyait pas l'armée. Il le savait, parce qu'il croyait la Bible. Savez-vous combien d'anges ont suivi Satan? Quelle proportion des anges ont suivi Satan? Un tiers des anges. Combien avez-vous d'anges de votre côté, toujours, qui vous entourent? Les deux tiers! Est-ce qu'on a une raison d'avoir peur? Est-ce qu'on a une raison de craindre? On a chanté des beaux cantiques. Oh, j'ai aimé vos choix encore aujourd'hui. Les paroles, c'était... J'avais plus besoin de prêcher. Ça, je disais, mais on n'écoute pas ce qu'on chante. Ah, c'est parti. Je travaille fort en plus. On retourne à notre tête. Robert, calme-toi. L'ange de l'Éternel lui apparut et lui dit, l'Éternel est avec toi, vaillant héros. Et Dieu l'a appelé dès le départ, un vaillant héros. Et ceux qui croient les Écritures écrites, qui les lisent, qui s'en nourrissent et qui désirent la vivre, vous avez du courage et vous allez devenir vaillant. Et le monde ne va pas être capable de vous séduire puis de vous entraîner à vous déguiser comme eux, puis à choisir leurs normes, puis à choisir leur manière de vivre. Les choses sur l'homosexualité et tout, ça ne va pas vous vaincre. Mais c'est certain que vous ne vivez pas votre vie. Même si on vous explique tout, vous allez tous tomber. Parce que vous n'êtes pas vaillants. Vous n'allez pas lutter pour votre propre vie. On ne peut pas les empêcher d'être le monde perdu. Il faut que ça devienne comme Sodome. On a à se préparer de vivre au milieu de Sodome comme des flambeaux qui brillent au milieu d'une génération perverse. Et pour ça, ça prend des hommes et des femmes, des jeunes hommes et des jeunes femmes qui lisez vos Bibles pour croire et pour vous tenir ferme. Puis après avoir tout surmonté, tenir encore ferme. Je suis rendu à Éphésiens. Robert, reste dans le juge, chapitre 6e, s'il vous plaît. Alors Jésus dit à Gédéon, vaillant héros. Gédéon lui dit, ah mon Seigneur, si l'Éternel est avec nous, pourquoi toutes ces choses nous sont-elles arrivées? Et où sont tous ces prodiges que nos pères nous racontaient quand ils disent, l'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne et il nous livre entre les mains de Madian. Et voyez-vous, il a cité le prophète. Il n'a pas cité le prophète qui a pas dit, le prophète nous a rappelé que nos pères nous avaient dit, le prophète a juste cité les mêmes versets que nos pères nous avaient montrés. Et que c'est beau la Bible. J'aime. Et là, Jésus-Christ lui répond au verset... Ah oui, il n'avait pas fini de parler, excusez. L'Éternel ne nous a-t-il pas fait monter hors d'Égypte? Maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il nous livre entre les mains de Madian. Et c'était vrai que Dieu les avait livrés. Mais le temps était terminé. Jésus voulait les délivrer. L'Éternel se tourna vers lui. Mais voyez-vous, Jésus-Christ est venu, puis il a parlé à Gédéon. Gédéon, c'est ce jeune homme-là ici. Il lui a parlé, vaillant héros. Et puis là, lorsque Gédéon a commencé à citer la Bible, mais pourquoi Jésus s'en allait? Puis Jésus s'éloignait de lui. Et puis là, il criait encore. Quand il avait fini de crier, il n'y a rien qui marche, Jésus s'est retourné de loin pour lui répondre à nouveau. Il a fait semblant comme les disciples d'Emmaüs, qui faisaient semblant qu'ils continuaient parce qu'ils disaient, viens chez nous pour manger. Et puis ils n'auront plus le pain avec eux. Parce que c'est écrit ça. Jésus lui écoute et lui parle, c'est certain qu'il le regarde. Puis là, il dit, bien maintenant, l'Éternel nous abandonne. Il a commencé à s'éloigner de lui. Puis, il lui parlait. Il avait déjà même commencé avant, parce que le premier mot de la réaction de Gédéon, c'est « Ah! Jésus! Ah! Écoute! Puis, il continue à marcher. Puis, quand il a fini la petite chanson, qu'on est faible, tout ça. Oui, c'est fait. Dieu a choisi les choses faibles. Espérez pas un jour de devenir fort! La force est en Christ. Et Dieu ne va pas partager sa gloire avec vous. Faut pas qu'on essaie de lui voler sa gloire. Arrête, ça dit ça plus loin avec le nombre de soldats. Arrête de dire les choses avant. On continue. Après qu'il ait fini de crier, l'Éternel se tourna vers lui. Il était visible, il voyait. Si elle était visible, il n'avait pas vu qu'il s'éloignait. Il avait pensé qu'il était toujours là. Il était visible, il a parlé, il s'est retourné, il s'est en allé. Lorsqu'il était loin, il est encore revenu. L'Éternel, verset 14, se tourna vers lui et dit, « Va avec cette force que tu as. » Et la force qu'il avait, c'était que quand il entendait la parole de Dieu, il l'entendait et il la croyait. Ça, c'est une force. S'il y avait la foi, et la foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient, pas d'une prophétie, de la parole de Dieu. Et s'il y a des prophéties de la parole de Dieu, c'est la parole de Dieu écrite qui parle du sujet du futur, qui nous parle. Va avec cette force que tu as. Va avec cette force que tu as. Je cherche mon verset. Va avec verset 14. Va avec cette force que tu as et délivre Israël de la main de Madian. Et là, il ajoute, n'est-ce pas moi qui t'envoie? N'est-ce pas moi? Gédéon lui dit, « Ah, mon Seigneur, avec quoi délivrerai-je Israël? Voici, ma famille est la plus pauvre de Manassé. Je suis le plus petit de la maison de mon père. » Moïse, quand il l'a appelé, Dieu lui a paru, là, c'était spectaculaire. Puis il dit, « Tu vas aller dire, oh non, moi j'ai un défaut de langue. J'ai de la misère à parler. Envoie-donc mon frère. » Et là, il vient chercher le trouble, hein, parce qu'il a eu difficulté avec son frère. Malgré son frère a fait tout ce que Dieu a voulu. Ça aurait été mieux qu'il obéisse. Dieu a réussi à faire son frère, leur rapport aurait été différent. Mais Dieu répare nos erreurs. Nos demandes qui sont contraires parce qu'on résiste à sa volonté. Des fois, il accepte, mais ça va compliquer les choses, mais il va les réparer. Mais il y a des conséquences qu'on va subir. C'est plus simple de croire comme des enfants. C'est pas grave que je vous dis, c'est parce que c'est écrit comme ça. Va avec cette force que tu as. Et tu délivreras Israël de la main de Madian. N'est-ce pas moi qui t'envoie? Mes chers frères et sœurs, Dieu nous a dit, allez par tout le monde. Dieu nous a envoyé prêcher la bonne nouvelle à toute la création. Puis vous allez gagner les âmes. Pas parce que vous êtes habile. Pas parce que vous savez comment bien faire, mais parce que Jésus vous a envoyé. Puis quand on ne veut plus obéir à la parole de Dieu, on invente toutes sortes de formations qui n'en finissent plus. Et pour former un évangéliste, comme pour baptiser un nouveau sauvé. Et c'est dommage. Quand on fait ça, la réaction suivante, de questionner si le nouveau sauvé est vraiment sauvé, ou le nouveau baptisé, s'il était sincère. Et si on prend juste la Bible, on élimine tous ces doutes-là parce que ça ne dépend pas de ce qu'on a fait pour que les gens marchent. Ça dépend qu'ils vont rencontrer Jésus et ils vont marcher eux aussi bien que nous, on a marché nous. Pourquoi je prêche? J'ai des messages devant chaque auditoire, ça sort différent. Je ne prêche pas la parole. Je ne prêche aux personnes. Mais je ne vous connais pas. Je ne sais pas pourquoi je dis ça. Si vous avez été sauvé, peut-être des gens ont douté de votre salut, je ne sais pas. Vous avez été sauvé, vous avez été vraiment sauvé. Et j'ai aucun doute là-dessus. Va avec cette force que tu as, n'est-ce pas moi qui t'envoie. Et là, Gédéon dit ceci. Je suis le plus petit, alors l'Éternel dit au verset 16e, mais je serai avec toi et tu battras Madian comme un seul homme. Et là, Gédéon, il veut être certain qui est celui qui lui parle. Et il dit à Dieu, Gédéon lui dit, si j'ai trouvé grâce à tes yeux, donne-moi un signe pour montrer que c'est toi qui me parles. Ne t'éloigne pas d'ici jusqu'à ce que je revienne auprès de toi et que j'apporte mon offrande. Là, je veux savoir si c'est vraiment Dieu qui me parle. Je vais t'apporter mon offrande et que je la dépose devant toi. Et l'Éternel dit, je resterai jusqu'à ce que tu reviennes. Et Gédéon entra, prépara un chevreau et puis avec des pots de farine, des pains sans levain, il mit la chair dans un panier et le jus dans un pot et il les apporta sous le térébinthe et le présenta à Jésus qui s'était rassis sous le térébinthe. Il voulait savoir si c'était Dieu. Il avait entendu parler comment Dieu avait tué un animal, puis l'avait immolé. Il avait entendu comment Abel avait offert l'animal. Il n'était pas né, Abel. Mais son père lui avait raconté comment Dieu fait, puis il avait appris la parole de Dieu qui était déjà le début de Genèse. C'est seulement ses parents qui ont pu lui apprendre. Son père et sa mère. La prochaine conférence. Prépare bien. Oh. Alors, il présente tout ça, il avait tout bien fait parce que c'était conforme à toutes les directives. Mais là, il était comme un sacrificateur, il présente devant Jésus-Christ. Le verset 20, l'ange de l'Éternel lui dit, « Prends la chair et les pains sans levain, pose-les sur ce rocher, telle belle image de Jésus, et répands le jus, il fit ainsi. » Et l'ange de l'Éternel avança l'extrémité du bâton qu'il avait à la main et toucha la chair et le pain sans levain. Alors s'éleva du rocher un feu, comme avec le prophète Élie, le feu de Dieu. Offrez vos corps comme un sacrifice vivant, saint et agréable à Dieu. Ça va être un culte raisonnable, et je vous garantis que si vous offrez vos corps vivants, c'est-à-dire vivre pour le Seigneur, notre corps vivant dans ce monde-ci, saint, séparé du monde, on n'est pas parfait, mais saint, on désire marcher dans la vérité, l'obéissance. Saint, vos corps vivants, saints, et puis agréables à Dieu. Si Dieu demande une chose que je dois faire dans mon Église, Et je vais me conformer aux directives qu'il me donne, autant aux hommes qu'aux femmes, aux garçons qu'aux filles. Et se conformer au maximum à notre capacité. Puis lui demander des choses simples, qui ne sont pas difficiles. Puis souvent, on ne veut pas faire ce que la Bible demande. Là, je parle doucement, puis ça me bat dans le cœur en arrière. Faut de la force, excusez-moi. Quelqu'un me dit, hein, faut pas que j'oublie. Alors, c'est là, je viens de faire le coup. Hein. Mais si vous obéissez aux petits détails, parce que je demande, si vous faites juste des petites choses simples, alors, vous allez faire les grandes choses sans difficulté. C'est important. Fait que, essayez pas de faire des choses simples et quand vous allez essayer, les montagnes vont se transporter. Vous les verrez peut-être pas, mais ils vont, ça va arriver. Aussi gros que ça. Alors, il présente à l'Éternel, je reviens dans le texte, l'ange éternel avance, et là, le feu s'élève du rocher, et consuma la chair, les pains sans levain, et l'ange de l'Éternel disparut à ses yeux. Et Gédéon, voyant que c'était l'ange de l'Éternel, c'était Dieu, il a dit, malheur à moi, Seigneur éternel, car j'ai vu l'ange de l'Éternel face à face, je devrais mourir sur place. Et l'Éternel, Dieu le Père lui dit, ou Jésus lui-même, sois en paix, ne crains point, tu ne mourras point. Et là, Gédéon a bâti un autel à l'ange de l'Éternel. On voit que Gédéon connaissait la parole de Dieu. Qu'Abraham, partout après que Dieu lui avait apparu, bâtissait des autels et ses fils faisaient pareil. Je vais le regarder dans mes notes maintenant parce que je n'ai pas regardé mes notes du tout. 1 Jean, tournez avec moi, 1 Jean, chapitre 1. 1 Jean, chapitre 2. Le verset 13e. 1 Jean, chapitre 2, le verset 13e. L'apôtre Jean nous écrit, nous parle dans son épître, il nous dit, je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Alors, il a commencé même au verset 12, j'aimerais vous parler avec le verset 12, c'est peut-être mieux. Je vous écris, petits enfants, parce que vos péchés vous sont pardonnés à cause de son nom. Je vous écris, Père, parce que vous avez connu celui qui est dès le commencement. Et je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Mes chers frères et sœurs, les pères, ça c'est les gens qui sont d'abord des pères humains, et aussi les gens qui ont accepté le Seigneur, et qui ont grandi dans le Seigneur, et qui ont conduit d'autres personnes au Seigneur, qui sont nés de nouveau et qui sont leurs enfants légitimes dans la foi. Ça c'est les pères. Donc, ils ont expérimenté, et mis en pratique, ils ont grandi. Les petits-enfants ici, c'est les qui viennent juste, tout juste de naître, et ça parle dès la nouvelle naissance. C'est garanti qu'on est un enfant de Dieu. Et puis Dieu a écrit sa Bible pour les nouveaux-nés, tout autant que pour les pères. Et puis Dieu a mis les jeunes gens après. Parce que les jeunes gens et ceux qui acceptent le Seigneur lorsqu'ils sont dans l'adolescence, c'est que là, le diable vise l'adolescence parce qu'ils veulent détruire les parents. Parce que souvent, quand on marche avec le Seigneur dans les familles chrétiennes, je suppose que les gens qui sont engagés dans l'œuvre, vous connaissez comment le diable attaque. Si le diable il peut démolir vos jeunes gens adolescents, il sait qu'ils démolissent complètement la maman, puis il veut démolir totalement le papa. Et puis ça annule toutes ces années-là jusqu'à leur adolescence de votre témoignage. Puis c'est qu'en plus que vous, si vous vous laissez démolir parce que vous ne croyez pas la Bible, puis où vous la savez, parce que des jeunes, dans nos, surtout, j'ai eu 6 enfants, ils savent les choses, puis ils choisissent de ne pas le faire, ah là! Le diable, s'il réussit, c'est qu'il vient de vous éliminer pour le restant de votre vie. Puis il va avoir réussi. Mais ceux qui lisent la parole de Dieu, avec foi, dans le but d'obéir, vous êtes ce que la Bible dit. Nous sommes plus que vainqueurs. Même dans les années de lutte et qu'on pense qu'on a tout gâché, nous demeurons des vainqueurs. Jésus a dit à Gédéon, qui était un vainqueur, qui était un vainqueur, qui avait encore rien accompli. Il était déjà un gagnant. Jamais, pourquoi j'enlève ton chandail? Jeune Jacques, c'est moi. Et je vous écris mon épître pour vous dire, hein, ils ont grandi dans l'Église et puis sont peut-être aussi des jeunes gens sur le niveau spirituel dans leur vie chrétienne. Je vous écris, jeunes gens, parce que vous avez vaincu le malin. Il n'a pas réussi à vous disqualifier, à vous éliminer. Et si des fois il a réussi des coups, vous êtes allé à Dieu, puis Dieu a tout réparé, puis il a changé le mal en bien. Vous avez découvert une grâce surabondante qui vous appartient maintenant pour toute autre victoire qui est devant vous. Et ensuite, Jean dit, je vous ai écrit, Père. Et là, Jean fait référence à son évangile, qui nous annonce que Jésus veut qu'on prêche l'évangile parce qu'il veut sauver tout le monde. Et puis dans l'évangile, il dit que j'aurais pu écrire toutes les choses au sujet de l'évangile, mais la planète entière pourrait pas avoir une bibliothèque assez grande pour mettre tous les livres qu'on écrirait. C'est merveilleux. Et quand vous lisez les évangiles, sachez que Dieu vous a donné un condensé, là. Et ça doit être agréable. Ah, c'est beau parce que je vais lire juste ça, puis je vais comprendre ce que toute une bibliothèque contient, qui serait plus grande que la planète Terre. Tous les trésors de la sagesse sont cachés dans ça. On a accès, c'est ici, là. Entre la première page et puis la dernière, c'est tout, là. Oh. J'espère que vous l'avez tous lu au moins une fois depuis votre nouvelle naissance. Moi, je la lis plus qu'une fois par année, à chaque année, depuis que je connais Jésus. Je vous ai écrit mon évangile, Père, pour la même raison que son épître, parce que vous connaissez celui qui est dès le commencement, et Père, ils ont atteint la maturité. Je vous ai écrit, jeunes gens, et j'ai prêché ça à Toulouse. C'était le premier message que j'ai prêché en France dans la ville de Toulouse. C'était celui-là. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Et si je m'adresse à vous ce matin, c'est parce que vous êtes forts, vous êtes forts. Je vous ai écrit, jeunes gens, parce que vous êtes forts. Je vous écris, jeunes gens, parce que la parole de Dieu demeure en vous. Ça, c'est Jésus-Christ qui demeure en vous. C'est pourquoi que vous connaissez la parole écrite, si vous voulez connaître la vie pour posséder, et la vivre, pour vous la découvrir. Comme les enfants, pour qu'ils découvrent leur vie dans notre société. Ils vont à l'école, ils apprennent 1 plus 1, ça fait 2. Mais après ça, avec ce 1 plus 1, ça fait 2, ils vont apprendre les multiplications. Après la multiplication des divisions, et après ça, ils peuvent se rendre dans des affaires compliquées, comme ma femme, elle prend des livres juste pour se compliquer l'existence de résoudre des problèmes impossibles par les sous. C'est ça l'essence. Moi, je ne suis pas comme ça. J'aime ça simple. Vous êtes forts. La parole de Dieu demeure en vous. Il répète. Et vous avez. Pas vous allez, mais vous avez vaincu le malin. Le malin, là, il a été créé quand tous les anges ont été créés parce qu'il ne se multiplie pas. Alors, il y a au moins 6000 ans d'existence. Et toi, tu as quel âge? Pardon?
20 ans.
Tu as 20 ans. Et déjà, le jour que tu as accepté Jésus-Christ, tu as battu quelqu'un qui ne peut pas vieillir, mais qui existe depuis 6000 ans, puis tu l'as battu. Ils ont joué au ping-pong, hein? Puis tu l'as battu. Ah! Ils osent plus. Et si tu continues à être toi-même en Christ, à un moment donné, il va fuir loin de toi. Parce qu'il m'humilie tellement, celui-là, je vais lui laisser la paix. Puis là, il va attaquer les autres. Il va y attaquer les enfants. Les enfants, ils vont se lever, puis se lèvent les enfants. Puis ils gagnent aussi. Alors c'est pour ça que vous l'évangile. Parce que vous êtes forts. Vous êtes la relève de l'Église. Et les jeunes hommes, bien, il y a des charges dans l'Église. Vous devez savoir que Dieu veut vous y préparer. Et c'est la raison pourquoi je leur fais une manière spéciale. Ils m'ont promis qu'ils m'aideraient quand ils leur demandent. Je retourne dans mon texte. Voilà. Ça va être-il? Elle, ça fait une sacrée là. Elle s'est terminée. J'ai dépassé là, c'est bien. J'ai tout terminé par ça.
Non, c'est terminé.
Attendez un peu, je regarde cela. Ça finissait à 11h. Je vous arrête là. On a arrêté 11h30, vous avez dit. Ah non, il faut se faire la sortie, je pense. Cela a été 11h30, ça c'est bien. Ok. Voyez-vous, c'est quand on appelle la lettre là, parce que je dois monter dans mon. Oh, que c'est beau. Ah, oh, c'est beau, les gars. Alors, à vous de lire la parole de Dieu. Les jeunes gens, en particulier les pères, continuent à donner l'exemple. C'est vos jeunes gens qui font aussi bien que vous, les mères aussi, les mères, beaucoup. Continuez. Parce que Dieu va convaincre vos enfants de faire aussi bien que vous. Un jour, vous allez être éblouis de les voir marcher mieux que vous marchez vous-même. Moi, j'ai réalisé ça. Il faut que les élèves dépassent leur professeur. Ça, c'est le vrai principe. Il y a des gens qui n'entendent pas tout le conseil de Dieu. Pourquoi? Ils ont peur que les gens à qui ils s'adressent, ils vont être trop instruits dans la parole et trop grandir qu'ils vont être comme un handicap. Non, c'est le contraire. C'est le contraire. Il y a des parents qui ont une grande éducation et si ça a aimé deux enfants, leurs enfants vont peut-être aller faire des études avancées dans toutes sortes de domaines. Ils vont s'épanouir selon leurs capacités, leurs dons et leurs désirs et leur raison d'être. Et puis, ils vont tellement aimer leurs parents qu'ils n'ont pas fait beaucoup d'études de les avoir si bien aimés et accompagnés tout au long. On ne perd pas. On ne perd jamais. En élevant les autres, on est toujours grandi. 1 Timothée 4, s'il vous plaît. 1 Timothée chapitre 4. Les jeunes gens, écoutez-moi bien. Ce matin, je sais, je m'adresse aux jeunes gens, mais j'ai pas peur, j'ai dit s'adresse aux 12, c'était la foule qui comprenait. Jésus a dit aux disciples qui étaient pour mourir, que ressuscité, ils ne comprenaient rien. Tous les ennemis comprenaient, on dit, qu'il ressusciterait, et on va cimenter la pierre. Tout le monde comprenait. C'est un bon principe, les disciples appellent son bien compris. 1 Timothée chapitre 4, le verset 6. 1 Timothée 4, le verset 6. Quand tu fais une entente, je vais dépasser là. En exposant ces choses aux frères, l'apôtre Paul parle au jeune homme Timothée, sera un bon ministre de Jésus-Christ, nourri des paroles de la foi. Alors, quand on lit la parole de Dieu, on la lit pour la croire, pour croire ce qu'elle dit. Et ça devient une nourriture. Israël, ils ont dit, mais n'ont-ils pas entendu? Oui, ils n'ont jamais cru, ça les a jamais nourris. Ils ont crucifié Jésus-Christ, ils l'ont livré aux mains des Romains, des païens, pour qu'ils le mettent à mort. Quand tu lis la Bible, c'est pour la croire. La foi vient de ce qu'on entend. Ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Dieu parle par les Écritures. Ce n'est pas entendre une voix qui va sonner. Mais quand je lis ma Bible, puis il vient, ça m'est arrivé ce matin, parce que là, c'est un contexte différent, là, la chaise est différente, et tout ça, j'ai dit, ah, je vais commencer ça, là. Je veux que tu me parles. Je veux t'entendre. Je veux que rien d'autre m'empêche. T'adresse à moi aujourd'hui. Comment j'allais parler de toi tout à l'heure si je n'ai pas eu un rendez-vous avec toi d'abord? Là, il m'avait parlé. J'ai eu le temps de regarder mes notes et rester plus de temps. Comme je ne pouvais pas déjeuner, je suis venu manger, peut-être avant d'être debout devant vous. Alors, Timothée était nourri de la parole, des paroles de la foi. Il était nourri aussi de la bonne doctrine. Et dans vos églises, vous avez des pasteurs, des enseignants qui vous enseignent la bonne doctrine. Il faut que vous en nourrissiez. Habituellement, la réaction quand on est un étudiant, c'est de la questionner. Et vous allez la questionner longtemps. Puis si c'est ce que vous faites, ça ne me dérange pas. Ça sonne bien intellectuel. Mais lorsque vous allez vouloir la manger, ça va être devenu froid, ça ne sera pas bien mangeable non plus. Parce que si vous questionnez tout avant de manger, lorsque là vous décidez de goûter, c'est froid et c'est pas mangeable. Fait que là, on dit, bon, je ne la dis pas parce que c'était pas bon. Hein, quand on a du froid, c'est sûr, c'est pas bon. comme des enfants nouveaux, les désirer le lait spirituel et pur, d'après ça, les steaks. Et je vous garantis qu'un steak chaud ou une belle tranche de rose beef, surtout s'il y a eu des tomates et des pommes de terre. Et des... Mais j'allais un jour me demander qu'est-ce que je pensais du végétarien. Je dis, moi, tout à fait d'accord, moi j'aime beaucoup, beaucoup les légumes. Je dis, moi, je mange ça, des pommes de terre, des tomates sur une feuille de salade, et puis du navet à côté, puis des carottes, et puis surtout quand je soulève la tomate, puis il y a une belle tranche de rose beef juste en dessous. Je suis comme avant le déluge et comme après le déluge. En même temps, et j'ai droit. C'est vrai, hein? J'ai l'estomac, ils ont fait, oh! L'estomac des lions qui aujourd'hui mangent la viande, dans le millénium, ils ne seront plus capables. Le même estomac. Dieu décide qu'est-ce qu'on peut manger. Ils vont manger de la paille comme le bœuf. C'est écrit dans votre Bible. Avez-vous lu votre Bible? C'est écrit dans votre Bible, hein? Parce que ça va arriver. Alors pourquoi se poser des questions? On ne peut pas l'expliquer, mais c'est ce qui va arriver. Oh! Il va avoir un petit agneau, là. Le loup va lever, il va dire, ça ne tente même pas. Puis il va manger de la paille à côté. Avec lui. Ah, ça, c'est bon. Ah, c'est pour ça que j'ai du plaisir à lire ma Bible. Tout, c'est comme des dessins animés quand c'est des choses comme ça. C'est comme des gars. J'aime ça. Ah, où je suis rendu? OK. Bien nourri des paroles, de doctrine. Et là, écoutez-moi bien. Il y a des gens qui disent, On ne peut pas être certain qu'on a vraiment tout fait obéir à toute la parole de Dieu. L'apôtre Paul dit de Timothée que les paroles qu'il a lues et qu'il a lues avec foi, il s'en est nourri, et les paroles de doctrine, qu'il s'est nourri de ces paroles-là aussi, il les a exactement suivies. Donc vous êtes capables de suivre exactement la saine doctrine. Et l'important, c'est pas de la connaître ici, parce que ceux qui se forcent et qui parlent beaucoup de ces trucs-là, souvent eux-mêmes trahissent ce qu'ils enseignent. L'important, c'est de suivre exactement tout ce que vous savez de Dieu, Satan, de vous. La saine doctrine. Et je vous garantis que vos églises vont être tellement belles. Parce que Dieu va réaliser ce qu'il est en train de dire. Vous allez devenir dans votre image de Dieu, conforme à Jésus-Christ, qui était l'image de Dieu, durant votre vie humaine. Vous allez avoir le péché encore qui va vous assaillir. Jésus n'avait pas lui dans son temps. Il comprend ça, Jésus. Il dit, si tu marches comme ça, le sang de Jésus va te purifier de tout péché. Si tu te rebelles, tu ne marches plus, il faut que tu le confesses. Jésus-Christ va le pardonner. Fidèle et juste. Et purifié. Alors, s'il vous plaît, jeunes gens, croyez ce que la Bible vous dit et donnez-vous pour but d'être comme Timothée. Dites, bien, moi, à chaque fois qu'une vérité va, je vais découvrir une vérité, je vais entendre une vérité, je vais m'appliquer à la suivre exactement. Et comme les gens verraient lorsqu'ils allaient voir les Écritures, c'était pas pour voir si c'était faux ce qu'on leur disait. C'était pour bien voir qu'il fallait qu'on croie, comme Gédéon quand il a fait l'autel. C'était pour bien voir que c'était Dieu qui lui parlait. Ça, c'est la belle attitude. Pas qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai. C'est Dieu qui dit que c'est vrai. Moi, j'aime pas ça, cette chose-là. J'ai toujours dit, mais qu'est-ce qu'il dit que c'est vrai? On est rendu en 2013. On attend toujours dedans. C'est Dieu qui dit que c'est vrai. Non? Ça me suffit. Chers jeunes gens, soyez. Paul dit à Timothée au verset 12 que personne ne méprise sa jeunesse. Jeune homme ou jeune fille, mais sois un modèle pour les fidèles. Et dans votre église locale, regardez les 4, 5, 6, 7 personnes les plus fidèles de l'église locale, dans tous les domaines. Choisissez-les, donnez-vous pour but de devenir pour les plus fidèles de votre église locale un modèle. Ça veut dire les dépasser, faire encore mieux qu'eux. Ça, c'est une belle raison de vivre né de nouveau. Je vais devenir, tout ce qu'elle avait dit à mon sujet, je vais exceller dans tous les détails, Je veux être un modèle pour ceux qui sont fidèles. Dieu dit dans les églises à Timothée, tu veux établir des hommes fidèles. C'est-à-dire que l'église, ils ne sont pas tous à cette fidélité-là. Il y avait des choix à faire. Puis toi, tu les choisis, je veux que tu sois un modèle pour eux. C'est mon but ce matin, que vous fassiez ce choix. Je veux bien que vous le fassiez tout de suite. Pour ne pas attendre qu'elle soit oubliée. Décidez donc ça. Sois un modèle. De que personne ne méprise sa jeunesse, mais sois un modèle pour les fidèles. En parole, en conduite, en amour, en foi et en pureté. Puis jusqu'à ce que je vienne, applique-toi à la lecture. Oui, moi, j'allais le plus vite possible parce que j'ai des devoirs à faire, puis j'ai des examens qui approchent, puis il faut que j'aille voir mon copain. Applique-toi à la lecture. Puis là, vous allez remarquer quand Jésus est invisible, puis quand il est visible, puis quand il s'éloigne, parce que c'est pas écrit. Mais évidemment, c'est ce qui est arrivé. Puis ça va vous faire tellement. Puis à chaque fois, je dis ça, je dis, hey, Dieu, il est parce que là, il ne cherche pas Jésus. Il est toujours à côté de nous. Il aime ça de nous entendre. Hier, c'était là qui était. Là, il y a une dame qui est assise à la chaise, c'est qui ça pas. Que vous ne le voyez pas, mais que vous le sachiez, il est là. Non. Il est au milieu de chacun de nous toujours. À chaque fois qu'on s'est mis, même deux ou trois, il est au milieu de nous. Puis quelles que soient les choses qu'on va lui demander, il va l'accorder. C'est toujours la même chose que Dieu les fait. C'est le monde des livres pour expliquer que c'est pas ça que ça veut dire. Mais moi je vous dis là, c'est ça que ça veut dire. C'est tout simple. C'est ça que ça veut dire.
Tu es fidèle.
Alors Gédéon fait son offrande, je vous ai dit ça maintenant. Verset 18 à 20 dans Gédéon, on va retourner dans Gédéon. Gédéon, dans le livre des juges, et là, oui, bon, c'est 22. Je vais terminer. Ah, c'est j'ai tellement peur de le déjà tout. Départ. Juge au chapitre 8. Je vais prendre maintenant un petit peu plus loin. Au verset, je vais maintenant chercher le verset. Oui, je fais ça. Maintenant, chapitre 7. La victoire est certaine. Gédéon, chapitre 7, verset 1er. Jérubbaal, qui est Gédéon, et tout le peuple qui était avec lui, se levèrent de bon matin et campèrent près de la source de Harod. Le camp de Madian était au nord et de Gédéon vers la colline de Moré dans la vallée. Et maintenant, on voit maintenant que Gédéon a cru, il a fait son sacrifice, il a accepté que Dieu dit qu'il délivrerait le peuple. Et puis, il s'en va sur la colline et les ennemis approchent. Et là, il est allé au-devant des ennemis. L'armure du chrétien, ça couvre tous les organes vitaux par en avant. Si on se tourne pour fuir les flèches qui pénètrent, parce que la cuirasse est par en avant. Vous savez ça, jeune gars, je vois les gens. Ils vous l'ont déjà fait. C'est un vrai perroquet. Je répète ce que vous avez déjà appris. C'est juste les remettre tout ensemble. Ah, ils vont au devant et l'armée approche. Le verset 2e, l'Éternel dit à Gédéon, le peuple que tu as avec toi est trop nombreux pour que je le livre entre tes mains. Il pourrait en tirer gloire contre moi et dire, c'est ma main qui m'a délivré. Alors le peuple est trop nombreux. Savez-vous combien nombreux ils étaient avec Gédéon? On va le voir tout à l'heure dans les versets qui suivent. Ils étaient 32 000 soldats. 32 000 soldats. Le peuple est trop nombreux contre l'autre armée. Quelle autre langue j'ai dit, faut que tu me... Mais toi, il n'y avait qu'on n'avait pas de Bible, hein, je ne pouvais pas lire. Un autre homme ou jeune homme, vous avez votre Bible. Vous lisez votre Bible sur votre téléphone. Tu lis ta Bible sur le téléphone, toi? C'est ça? Alors, veux-tu lire Juge, le chapitre 8e, on va voir combien étaient nombreux l'autre armée. Juge 8, verset 10e, s'il vous plaît. Juge 8, verset 10. Zerach, ça commence Zedach.
Zéba et Sam, Samana étaient à Carcon et leur armée avec eux. 15 millions d'hommes environ.
15 000
hommes environ, tous ceux qui étaient restés de l'armée entière des fils de l'Orient, car il était tombé 120 millions hommes tirant des pays.
Très bien. Alors, ils étaient combien, l'autre armée? Oui, vous avez dit comme il faut, frère, il était combien? 135 000, puisqu'il en restait 15 000 vivants. Ça, c'était juste de l'armée de l'Orient, pas les deux autres qui s'étaient vus. Tu dis, il y en a 135 000 plus les deux autres armées, vous êtes 32 000, vous êtes trop nombreux! Parce que le pasteur, quand il m'a communiqué pour la conférence, il a dit, nos églises sont toutes petites. C'est difficile, c'est... Ben oui. Ils étaient trop nombreux, eux, 32 000 contre 135 000 plus les deux autres armées. Ça va donner la gloire à l'homme. Et vos églises sont exactement dans le format où on ne peut pas se péter les bretelles. Au Québec, il faut donner gloire à Dieu quand il se passe quelque chose. Nous, on est assez nombreux pour gagner la victoire. Alors, eux, ils étaient trop nombreux pour gagner la victoire sans voler la gloire à Dieu. Alors, Dieu dit, c'est facile, on commence. Alors, regardez si c'est beau. On est rendu au verset, le verset troisième. Et Dieu dit au verset 3e dans Juges chapitre 7, ceux qui sont heureux, levez la main. Il dit, publie donc ceci aux oreilles du peuple, que celui qui est craintif et qui a peur s'en retourne et s'éloigne de la montagne de Galaad. Et donc, ah, c'est bien, j'ai des vaillants guerriers avec moi. 22 000 hommes parmi le peuple s'en retournèrent. Il en resta 10 000. Ça, c'est plus que la moitié qui est partie. 22 000 sur 32 000. Gédéon aussi. Puis en passant, Gédéon, lui, il était peureux. Il demandait toujours deux signes. C'était, tu vas me mettre une toison. Ça, tu vas mettre la rosée à côté. De, ah! Pour se rassurer. Il avait tellement peur de lui dire ça, là, va voir, là, puis avec deux de ses hommes, pour rassurer. Puis écoute, ça me donne du courage. Puis il entendait ce qu'il disait de l'Éternel, puis l'épée de Gédéon, puis ils vont nous battre. Puis il dit, tu peux pas avoir peur, ils savent qu'ils vont perdre. Le diable, il vous attaque beaucoup parce qu'il sait qu'il est perdant. Il sait qu'il va perdre. Mais il l'accepte pas. Nous, on est vainqueurs, puis on l'accepte pas, puis on se laisse battre. Je n'accepte pas ça! S'il vous plaît, vous autres, soyez vaillants comme vous êtes. Ferme, parce que vous êtes fort que vous croyez la Bible. C'est Dieu qui vous dit ça. Vous êtes fort et vaillant. Vous êtes plus que vainqueur. Vous allez toujours remporter la victoire. Alors, 22 000 sont passés. Pauvre Gédéon. Il fallait qu'il apprenne la foi. Et puis on continue. L'Éternel dit à Gédéon, le peuple est encore trop nombreux. Fais-les descendre vers l'eau, et là, je t'en ferai le triage. Celui dont je te dirai que celui-ci aille avec toi, ira avec toi, et celui dont je te dirai, celui-ci, qui n'aille pas avec toi, et qui n'ira pas avec toi. Alors Gédéon ne savait pas comment Dieu déciderait le triage. Alors il les a amenés au torrent. Et puis Gédéon fit descendre le peuple vers l'eau, et l'Éternel dit à Gédéon, tous ceux qui laperont l'eau avec la langue, comme lape le chien, tu les sépareras de tous ceux qui se mettront à genoux pour boire. Alors, ceux qui lapent avec la main, c'est qu'ils traversaient le ruisseau, ils prenaient l'eau, ils portaient à la bouche, ils buvaient. Et les autres se sont mis à quatre pattes, puis ils lapent dans l'eau. On va regarder les chiffres. On va regarder les chiffres. Ceux qui lapèrent l'eau en le portant à la bouche, à leurs mains, furent du nombre de 300 hommes. Et tout le reste du peuple se mit à genoux pour boire. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est bien grave au moins. Il m'a l'air sur un bon groupe. Et l'Éternel dit à Gédéon, c'est par les 300 hommes qui ont la paix que je vous sauverai et que je livrerai Madian entre tes mains, que tout le reste du peuple s'en aille, chacun chez soi. Dans nos églises, c'était pas du tout les gens qui avaient peur. Ils étaient comme ça. Puis j'ai dit, bien, je vais leur permettre de ne pas s'impliquer dans la guerre. Ah, il faut que tous, pour que chacun, t'as beau voir. Il y a des gens qui ont très, très peur. Moi, j'ai très peur de frapper aux portes. Parce que j'ai peur de tous les chiens qui existent. Et à chaque fois qu'on veut frapper la porte avant qu'on frappe, ça jatte parce qu'ils nous sentent. Puis quand je le faisais, j'avais pas de misère à frapper aux portes. Parce que je prenais tellement que ça faisait. C'est un gros handicap pour moi. Je fais une marche sur un chien dans un coin. J'ai entendu, il faut que je trouve une autre place pour me promener. Heureusement, quand ma femme est avec moi, ça va bien. Parce qu'elle n'a pas peur. Ça me protège. C'est vrai. Les gens-là, maintenant, j'ai appris un peu. Mais j'étais très, très heureux. Au début de la vie chrétienne, je me sentais misérable. Je ne pouvais rien faire pour toi. Voyez-vous, avec quelqu'un qui ne veut rien faire, il y a quand même fait des choses. C'est vrai que Gédéon, il dit, avec les 300, tu vas aller, et puis moi, je vais gagner la bataille. C'est pour ça qu'on est fort et vaillant. Parce que celui qui est en nous, il est vraiment là, qu'on le sait, qui est plus grand que le diable qui fait toutes ces folies-là dans le monde, dans nos pays, avec nos lois que Dieu a établies par les autorités. Puis nous, on va rester ferme sur notre terrain, puis nous allons remporter la victoire. Et quand déjà, c'est par ces 300, on l'a paix, et le sauverai. Alors, on prie les vives, le peuple et toutes les trompettes. Puis, Gédéon renvoya tous les hommes d'Israël, chacun dans sa tente. Il retint les 300 hommes. Le camp de Madian était au-dessous de lui, dans la vallée. Et l'Éternel dit à Gédéon, pendant la nuit, va voir, te rassurer. Et ensuite, et là, c'est important, la conclusion. Oh, là, le temps est terminé. Oh là là. C'est important, la conclusion. Je peux pas me permettre de pas vous la donner. Ce qui est très, très important. C'est dans le chapitre 8e, le verset 7e. Excusez. Je ne sais pas si j'ai trouvé le bon chapitre. Mais je vais regarder si ce n'est pas même en dessous. Je vais chercher un verset là. Chapitre. Les deux choses les plus importantes au chapitre. C'est 17e. Chapitre, je ne regardais pas le bon. 17e, OK. Du chapitre. Oui, Christine, viens à mon secours. OK, c'est au chapitre 7e, verset 17e. C'était bien le chapitre 7e. J'ai eu un doute. Il leur dit ceci. Ah, bien avant, on peut regarder 15. Bien lorsque Gédéon eut entendu le récit du songe et son explication, il se prosterna, revint au camp. Il adore Dieu toujours. Il remercie Dieu qui l'a rassuré. Il dit, levez-vous, car l'Éternel a livré entre vos mains le camp de Madian. Il divisa les trois corps. En trois corps, les 300 hommes. Alors, Gédéon n'était pas un fort en mathématiques. Il y avait des milliers, c'est compliqué. Et tu t'engages 100, puis là, je vais te dire comment tu procèdes. T'en as 100, alors tu divises 103. 100, 100, 100. Alors, ça, c'était simple. Comme le citron de pâté de berger, là, de bœuf, de blédine, patate, pomme de terre. Bœuf, blédine, pomme de terre. 3, 4, 5, 6. Et puis là, il dit ceci. Il leur dit, vous me regarderez, et vous ferez comme moi. Hébreux 12 nous dit ça. Ayant les regards sur Jésus. Il y a des gens qui s'arrêtent là. Parce que c'est ce que ça dit. Mais quand on a les regards sur Jésus, c'est pour une seule et unique raison. Pas pour voir combien beau il est. C'est pour qu'on puisse être comme il est. C'est pour qu'on agisse comme il agit. Qu'on vive comme il a vécu. Ça, c'est la raison de regarder à Jésus. Sinon, vous perdez votre temps. regardez à Jésus, et là vous agirez comme j'agirai. Vous me regarderez et vous ferez comme moi. Dès que j'aborderai le camp, vous ferez ce que je ferai, et quand je sonnerai de la trompette, vous sonnerez aussi de la trompette tout autour du camp, et vous direz pour l'Éternel et pour Gédéon. Alors Dieu, après qu'il avait choisi les 300 hommes au lieu des 32 000 qu'ils étaient, il a dit, maintenant, je vais vous équiper pour la guerre. Chacun, vous allez prendre une cruche. Ça fait, c'est une expression qu'on utilise des fois pour certaines personnes. Une cruche, un flambeau, puis une trompette. Contre les hommes armés, là. Vous savez combien? 135 000 soldats. On porte l'évangile dans un vase de terre, une cruche. Elle est vide. Qu'elle soit vide, pour que ça décide à remplir. Cruche vide. C'est ce que je suis. La parole dans nous. Quand c'est temps, on sort la parole, puis là, avec le lichène, ça éclaire, vite. Puis la trompette. Connaissez votre Bible pour que lorsque vous parlez, c'est le son de la trompette qui sort de votre bouche. Un son clair qui dit aux chrétiens quoi croire et comment le vivre. Nous donne des convictions. Ça, c'était leur arbre. Ils ont fait comme Gédéon. Mes chers jeunes gens, écoutez-moi bien, là. Gardez vos yeux sur Jésus-Christ pour vivre comme Jésus-Christ. Et là, dans le camp, restez à votre place. Dieu vous a placé dans une église locale. Si vous devez changer parce que Dieu vous l'aimera, c'est Dieu qui décidera ça. Restez à votre place dans votre église locale et occupez la place et que Dieu se serve de vous avec le vase d'argile que vous êtes qu'il va briser. La parole de Dieu que vous connaissez qui va permettre qu'elle se manifeste autour de vous et que votre témoignage soit aussi clair que le son de trompette. Faites comme Jésus. Vous avez chacun les dons du Saint-Esprit que Dieu a décidé. Il a décidé quelle église vous naîtrez de nouveau, où vous seriez, et c'est important d'être à notre place. La victoire en dépend. La victoire de votre église de faire. C'est ce qu'ils ont fait. Et puis ils ont remporté la victoire. Le psaume 110 est terminé. Je m'excuse d'avoir pris encore plus de temps. Mais... Le psaume 110 parle quand Jésus-Christ, le Père a dit de Jésus-Christ, qu'il l'a consacré. Assis-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse de tes ennemis ton marcheté. Et la conclusion, je dirai juste quelques versets. La conclusion, pourquoi Dieu a confié à Jésus-Christ? Parce que c'est lui, Jésus-Christ, qui traverse les courants d'eau sans se mettre en retard. Parce qu'il nous aime tellement, qu'il veut tellement nous protéger, qu'il latte et puis qu'il boit. Regardez l'ennemi pour pas qu'il vous touche. Le bon berger n'est pas un mercenaire qui travaille pour sa paix. Il regarde le lion vient, l'ours et tout ça. Il surveille toujours sa lunette et son bâton. C'est pas pour frapper les brebis. Il dit, il peut s'en servir peut-être, mais c'est pas pour les frapper. Et pour le bâton, c'était une petite massue avec pour lancer ça sur la tête des loups, puis éloigner les ennemis. Puis tous ceux qui ont ressemblé à Jésus-Christ, c'est ceux que Dieu a choisis. Il y en avait seulement 300. J'aimerais ça que vous soyez tous semblables à Jésus. 100% de vos églises. Parce que nous, on est un peuple, on est dans le ciel. On est capable de l'être. Seigneur, merci beaucoup pour ta parole, pour ces belles personnes, si belles, parce que tu les as créées des nouvelles créatures à ton image et à ta ressemblance. Créées de nouveau par une nouvelle naissance. Seigneur, fais que chacun croit ce que tu dis de chacun d'eux. Qu'ils reconnaissent qu'en eux-mêmes, ils ne sont rien, qu'ils sont faibles, qu'ils ne sont pas nobles, nécessairement. Il y en a quelques-uns, mais si peu parmi eux. Mais avec toi, qui nous garantit que je suis avec vous tous les jours, et que je suis en vous, et que c'est avantageux que je m'en aille, parce que le Saint-Esprit va vous envoyer, vous être envoyé, et je serai en vous. C'est mieux. Eh bien, fais qu'on vive en croyant toute ta parole, puis en marchant comme des vaillants héros que nous sommes. Au nom de Jésus. Amen.
Amen.